Bien chers frères et sœurs, on est heureux de se retrouver pour la huitième étude sur l'Apocalypse, présentée par le pasteur Mike Williams, qui est ici d'ailleurs, comme toujours d'ailleurs, avec fidélité. Alors nous allons prier, remettre cette réunion dans les mains de Dieu, hein, et que le Seigneur nous fasse vraiment le plus grand bien au travers de cette étude. Seigneur Père, nous te prions vraiment, Seigneur, de tabernacler dans cet endroit, de reposer ton esprit, Seigneur, et ta paix, et que tu puisses nous conduire dans l'enseignement de ta parole. Nous voulons être enseignés, comme dit le psaume 119, nous voulons oui, connaître ta parole et vivre, demeurer dans ta parole. Laisser vivre cette parole dans nos vies et approfondir, avoir des racines dans ta parole. Devenir fort pour les jours mauvais comme dans les jours bons, que nous soyons des hommes et des femmes attentives à la parole de Dieu, aux signes, aux accomplissements des temps de la fin. Merci Seigneur, nous voulons que tu prépares ton épouse et nous sommes une partie de cette église que tu aimes et que tu chéris. Alors manifeste ta grâce, que parmi nous tu te manifestes avec puissance. Et tu donnes l'onction de ton esprit comme tu le fais toujours sur le pasteur Mike Williams. Merci Père de permettre que nos cœurs soient ouverts, réceptifs à ta parole. Merci Jésus, que nous soyons vraiment forts dans ta parole et affermis. Affermis l'œuvre que tu as commencée dans nos vies jusqu'à l'accomplissement. Merci Seigneur, nous savons que ce que tu commences, tu le termines. Et nous te remercions pour ta présence et ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur soit béni. Nous allons laisser toute la place au pasteur Mike Williams. Il n'y a pas de chant, mais il n'y a pas de musicien aujourd'hui. Et ma voix est déficiente, alors je préfère passer tout de suite la parole au pasteur Mike Williams.
Bonsoir, frères et sœurs. Moi aussi, je suis enrhumé, je tousse. Si je touche, c'est en flamand, hein, je touche en flamand. Hein. Mais je suis content d'être avec vous. Merci de l'invitation, de l'hospitalité et le privilège d'ouvrir la Bible et de partager la parole de Dieu. La fois passée, nous avons vu qu'entre la sixième et la septième trompette, il y a, on dirait, une interlude. Il y a trois choses qui interviennent. Et nous avons vu que Dieu a donné un petit livre à l'apôtre. Et dans ce petit livre, il y avait question des mystères. J'espère que vous vous rappelez que j'ai essayé en vitesse d'expliquer les mystères du Nouveau Testament. Espérons que maintenant, les mystères ne sont plus mystérieux. Nous allons reprendre le petit livre. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez jamais mangé un livre, vous? C'est pas conseillé, hein? Indigestion est le résultat. Est-ce que c'est ça? De nouveau, nous devons comprendre ceci contre l'arrière-plan juif. Un juif n'avale pas un livre littéralement, mais il sait très bien ce que ça veut dire. C'est une expression, une façon de parler. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, a reçu l'ordre de manger un livre. Je regardais, voici une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche comme du miel. Qu'est-ce que ça veut dire pour un juif, manger un livre? Eh bien, tout simplement, qu'on doit permettre aux paroles de ce livre de pénétrer dans son âme. C'est ça l'idée. Que ça ne reste pas seulement quelque chose qu'on lit avec ses yeux, mais qu'on absorbe la signification. Vous me suivez? C'est simplement ça. Ce n'est pas que Jean ou Ézéchiel doivent littéralement manger du papier ou du parchemin à l'époque. Non, c'est qu'ils doivent laisser pénétrer les paroles, les pensées. Et je me dis que, bon, ce serait bien dans ce sens-là que nous tous, on mange la Bible tous les jours, n'est-ce pas? C'est clair quand nous lisons ce que Dieu dit par la suite à Ézéchiel. « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Pas seulement que tu écoutes de tes oreilles, mais aussi que tu reçois dans ton cœur. Et la Bible ne fait rien dans notre vie si nous nous limitons aux oreilles, n'est-ce pas? Il faut que ça entre par les oreilles et que ça descende dans le cœur. Et alors ça a son effet. Les paroles du livre sont doux comme du miel au début. Mais quand Jean les digère, quand il a eu le temps de méditer leur signification, sa joie se transforme en tristesse. Il se réjouit parce que Jésus revient, mais il est triste quand il contemple la souffrance que le retour du Seigneur va déclencher. Et Jean dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est ça le petit livre. La parole de Dieu qu'on doit méditer, qu'on doit permettre de pénétrer, que ça ne reste pas superficiel. Et puis, qu'on l'annonce sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça, c'était la première chose dans cet interlude entre les deux trompettes. La deuxième chose, et maintenant nous débutons le chapitre 11, « On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Encore un de ces textes qui, initialement, on se dit, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et encore une fois, quand on va regarder contre l'arrière-plan, c'est pas difficile à comprendre du tout. Jean reçoit un roseau, mesure si vous voulez, hein? Un mètre. Et on lui dit, tu dois mesurer le temple. Qu'est-ce que c'est que le temple? On emploie le mot temple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, avec beaucoup, plusieurs significations. Mais le temple, strictement dit, n'est pas tout le complexe des bâtiments, mais le sanctuaire. Nous disons temple et nous pensons à tout. Mais strictement parlant, ce n'est pas les parvis autour, c'est le sanctuaire. Et les mesures du temple à Jérusalem sont connues. On est souvent étonné On a l'impression dans la Bible que le temple est immense. Oui, le temple est immense. Le complexe du temple est immense. Cette esplanade sur laquelle le temple est construit mesure 500 sur 300 mètres. Mais le sanctuaire lui-même n'était pas grand du tout. Le sanctuaire lui-même était à peu près 27 et demi mètres de long, 9 mètres de large et 18 mètres de hauteur. C'est pas énorme, hein? Vous n'y mettez pas des milliers de personnes. Mais il fallait pas mettre des milliers de personnes. Parce que qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire même? Presque rien. On offrait le parfum tous les après-midi vers 3 heures. Et une fois par an, le souverain sacrificateur passait par le sanctuaire pour aller dans le Saint des Saints. Mais la plus grande majorité de tout ce qui se passait dans le temple se passait dehors. Toutes les holocaustes et tout ça n'étaient pas dans le sanctuaire. Heureusement, parce qu'il n'y avait pas de cheminée. La fumée n'aurait pas pu partir. L'autel des holocaustes était en plein air, dehors, devant le sanctuaire. Jean doit donc mesurer le lieu saint, pas les parvis des païens. Il doit mesurer l'autel, ça on comprend, et il doit mesurer les adorateurs. Ça c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'il doit mesurer notre taille, notre hauteur, le nombre? Mais c'est plus compliqué que ça. Quel temple est-ce qu'il doit mesurer? Le prophète Zacharie a vu quelque chose de pareil. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Jean doit mesurer le temple. Quel temple? Il n'y a plus de temple. Quand Jean reçoit l'Apocalypse, il n'y a pas de temple. Le temple est déjà détruit par les Romains 25 ans plus tôt. S'il va mesurer quelque chose, il ne pourrait mesurer que des ruines. Pendant les derniers trois ans et demi de la Grande Tribulation, les païens, c'est-à-dire les non-juifs, prendront charge du temple ainsi que de la ville sainte de Jérusalem. Jésus a dit, ils, les juifs, tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La Bible montre que le temple qui a été détruit dans l'an 70, le temple va être reconstruit à Jérusalem. Les Juifs ont toujours cru et croient jusqu'aujourd'hui que leur temple sera reconstruit. Pendant leur fête, leur grande fête, ils recitent une prière qu'ils appellent le Moussaf. Et dans cette prière, ils prient ceci. Éternel, reconstruis ta maison comme au début. Réjouissons-nous dans son établissement. Et quand ils prient cette prière, ils tournent toujours leur visage dans la direction de Jérusalem. Vous avez l'air d'être étonnés. Ils ne vont pas construire le temple à Boisdevillers, hein? Il sera construit à Jérusalem et même pas n'importe où à Jérusalem. Les Juifs ont toujours gardé vivant le souvenir de leur temple. À leur entendre parler parfois, on croirait que le temple n'a jamais été détruit, qu'il est toujours là. Ils parlent comme si le temple est là, tellement pour eux que c'est une réalité, c'est une vérité. Et il croit sincèrement que le temple va être construit. Je ne sais pas si vous connaissez des Juifs, mais les Juifs, ils aiment discuter, argumenter même. Quant à la reconstruction du temple comme fait, ils sont pour ainsi dire tous d'accord. Sur les détails, pas. Ils se disputent sur les détails, mais pas sur le fait. Certains préparent sa reconstruction maintenant, parce que un des points de discussion, c'est quand le nouveau temple doit être construit. Certains préparent la reconstruction maintenant, d'autres croient qu'il faut attendre que le Messie ne soit venu. Et donc, ils refusent d'entamer des préparatifs. Encore d'autres essayent de cadrer le tout dans la prophétie et cherchent plutôt un accomplissement spirituel que littéral. Et alors, ils disent qu'il faut d'abord un signe prophétique avant de pouvoir construire. D'autres encore disent que le temple, c'est un édifice qui doit être construit dans la paix. Donc, tant qu'il y a de la guerre, on ne peut pas y commencer. Tous ont dit, il faut attendre le retour des Juifs en Israël avant de pouvoir construire. Mais ça, c'est déjà un fait. Ce n'est pas attendre le retour des Juifs qui est l'obstacle. Il y a un autre obstacle. Vous savez lequel c'est? La fameuse mosquée là, avec sa coupole d'or. C'est ça l'obstacle. Parce que justement, cette mosquée est construite à l'endroit où se trouvait le sanctuaire. D'après certains, d'où se trouvait le Saint des Saints. Probablement que le Saint des Saints était juste hors de la mosquée. Ça n'a pas d'importance. Mais des bruits courent de temps en temps que des plans, des matériaux de la construction pour le nouveau temple sont tous prêts ou presque. Qu'est-ce qu'on doit croire de tous ces bruits? J'ai recherché. Ce que je peux vous dire, c'est que des plans sont déjà faits. Ce que je peux aussi vous dire, et vous me comprendrez bien, c'est que même si dans les temps bibliques, construire le temple, ça a pris des années. Aujourd'hui, avec nos moyens de construction tout modernes, ça pourrait se faire très vite. Si les plans sont déjà là, si les matériaux sont déjà préparés. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le mobilier, le menorah, l'autel des parfums, la table des pains de proposition sont déjà prêts. On fabrique déjà les uniformes des prêtres et des lévites. Ceux qui ont été avec en Israël, nous avons visité l'Institut du Temple où ces choses sont exposées. Hein, votre pasteur et son épouse, nous les avons vues. Et c'est très joli aussi. C'est très bien fait. C'est prêt. Si je vous dis aussi que, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a plus, mais à ma connaissance, il y a à Jérusalem 4 collèges où on forme les jeunes pour devenir des prêtres. Un peu problématique, hein? La Bible dit qu'un prêtre doit être de la tribu de Lévi. Est-ce que tous les Juifs du temps moderne savent de quelle tribu ils sont? Et même s'ils prétendent le savoir, peuvent-ils le prouver? Pour la plupart, non. Mais les Juifs sont toujours très inventeurs. Et alors, ils ont décidé que si votre nom de famille est un nom lévite, vous êtes lévite. Donc, si votre nom de famille, par exemple, est Cohen, les Cohenites étaient une famille de la tribu de Lévi. Donc, si vous vous appelez Monsieur Cohen, et pour les Juifs, Cohen, c'est un peu comme Dupont chez nous, donc il y a beaucoup de Monsieur Cohen, vous êtes lévite. Et ils ont une liste de noms acceptables. Est-ce qu'ils ont raison? C'est pas moi qui va discuter. Mais ils auront besoin d'à peu près 40 000 prêtres. Ils sont déjà en train d'en former. Jean a connu le temple, n'est-ce pas? Il y a été beaucoup de fois. Mais ce temple qu'il a connu, qu'il est déjà détruit depuis 25 ans quand il reçoit l'ordre de mesurer le temple. Et la destruction de ce temple a été prophétisée par Daniel. Daniel parle de la destruction d'un temple, mais lequel? Un chef qui viendra, donc après son temps, détruira la ville et le sanctuaire. Au moment où Daniel écrit cela ou dit cela, il n'y a pas de temple à Jérusalem non plus. Ce serait compliqué pour expliquer tout l'arrière-plan de cela, mais il parle des temps de la fin. La prophétie des 70 semaines, pour ceux qui connaissent Daniel 9. Un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cela parle de ce que fera l'Antichrist à la moitié de la grande tribulation quand il fera cesser les holocaustes dans le temple. Je parlerai de cela plus tard, je ne vais pas entrer en détail maintenant, on reviendra là-dessus, pas ce soir, une autre fois. Mais quel temple alors est-ce que Jean doit mesurer? Certains pensent qu'il s'agit du temple au ciel. Mais Jean n'est pas au ciel. Et à quoi est-ce que ça servirait de mesurer le temple au ciel? Ou alors, Jean voit dans sa vision le temple qui sera reconstruit à Jérusalem. Il me semble que ça, c'est plus probable. Il doit le mesurer, mais il ne donne pas les mesures. Est-ce que ce temple sera exactement comme le temple qu'on connaissait, qu'il avait connu, le temple d'Hérode? On ne le sait pas. La Bible ne donne pas plus de détails. Si nous n'avons pas de détails, nous avons quand même l'assurance que le temple va être reconstruit. Et c'est ça le plus important. Que ce soit quelques centimètres de plus ou de moins, ça n'a pas tellement d'importance. Mais le temple sera reconstruit. On reviendra là-dessus aussi plus tard, mais je voudrais parler d'abord du troisième événement qui se passe entre le sixième et la septième trompette. Aussi un peu mystérieux, le témoignage des deux témoins. Dieu dit à Jean, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Dieu ne se laissera pas sans témoin, même pendant la grande tribulation. Dieu ne s'est jamais laissé sans témoin, n'est-ce pas? Même dans les heures les plus sombres de la terre, Dieu a toujours eu ses témoins. Je donnerai à mes deux témoins de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Les personnes âgées parmi nous se rappelleraient peut-être d'un président russe dans l'ère soviétique qui s'appelait Nikita Khrushchev, juste après l'ère de Staline. À un moment donné, il a promis qu'il montrerait à la télévision le dernier chrétien en Russie, parce que le communisme était tellement formidable qu'on n'avait plus besoin de Dieu. Il a promis de montrer le dernier chrétien. Ce dernier chrétien n'a jamais été montré, bien sûr. Parce que Dieu laisse toujours ses témoins. Ils vont prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Dans le calendrier juif, qui n'est pas le même que le nôtre, n'essayez pas d'étudier le calendrier juif, c'est une casse-tête. Ils ont un calendrier lunaire. Ça veut dire qu'ils ont 12 mois de 30 jours. En d'autres mots, 5 jours moins que nous. Et tous les 4 ans, 6 jours moins que nous. Le problème avec ça, c'est que si vous avez tous les ans 5 ou 6 jours en moins, au bout d'un certain temps, vos mois d'hiver sont en été. Vous suivez? Hein? Il y a toujours un décalage. Alors, les Juifs, comme j'ai dit tout à l'heure, étant inventaires, ils ont trouvé une solution. Tous les autant d'années, ils ont un 13e mois. Nous connaissons le 13e mois aussi, mais ça, c'est certains qui ont double paiement. Ce n'est pas un double paiement, c'est un 13e mois. Juste pour compliquer la vie, le 13e mois a exactement le même nom que le 12e. Vous devez seulement savoir que c'est le deuxième 12e mois. Ça devient compliqué. On n'a pas besoin de comprendre ça. Je ne vais pas vous donner plus de détails, je ne comprends pas les détails moi-même. Ce qui est important, 1260 jours, ça fait 42 mois dans le calendrier juif. Si vous divisez 1260 par 30, vous arrivez à 42. 42 mois, c'est 3 ans et demi, d'accord? La moitié de la grande tribulation. Il lui fut donné la bête, c'est à la bête, fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le prophète Daniel, il en dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Temps, là, ça veut dire une année. Donc un an, plus deux ans, plus la moitié d'une année. Ça fait aussi 3 ans et demi. Daniel dit encore, « J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. » Maintenant, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs. Qui sont ces deux témoins? Ouh, si on avait tout l'encre qui a été employée pour écrire les différentes théories, on aurait besoin d'un bassin de natation, au moins. Qui sont ces deux témoins? Il y a plusieurs candidats. Mais il y a deux choses qui nous aident à les identifier. Après 3 ans et demi, ils vont être tués. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Qui sont des hommes de la Bible qui ne sont même pas morts une seule fois? Il y a deux, Enoch et Élie. Quand j'ai donné cette étude dans une autre église, quelqu'un m'a venu trouver après la réunion, il a dit, réservé aux hommes de mourir une seule fois, il y a des gens dans la Bible qui sont morts deux fois. C'est vrai, hein? Lazare, par exemple, il est ressuscité par Jésus, mais il ne vit plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne vais pas discuter là-dessus. Il ne s'agit pas d'une résurrection, il s'agit d'un mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a deux. Alors, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Mais il y a un troisième candidat très sérieux aussi, c'est Moïse. Ah! Parce que la description du ministère de ces deux témoins ressemble quand même beaucoup au ministère d'Élie et de Moïse. Il y a même des experts, soi-disant, qui se demandent si Moïse est réellement mort, parce que, comme vous le savez, personne ne l'a vu mourir, et ceux qui ont voulu chercher son corps ou son tombeau l'ont jamais trouvé. Mais la Bible dit clairement qu'il est mort, et la Bible dit clairement que c'est Dieu qui l'a enterré. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Et personne ne l'a vu, n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Si nous regardons le style de leur ministère, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Il y a fait ça, n'est-ce pas? Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça nous arrangerait bien si Élie reviendrait en Belgique, n'est-ce pas? Peut-être pas pendant 3 ans et demi, mais 3 semaines et demie, ça pourrait aller. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Moïse a fait ça. De frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est Moïse qui a fait ça en Égypte. Si ces deux témoins, en effet, sont des hommes qui ont déjà vécu sur la terre, et ça n'est pas certain, deux de ces trois candidats. Merci, frère. Je vous laisse choisir vous-même. Personnellement, je tends plutôt vers Élie et Enoch, mais si c'est Moïse, je ne vais pas être fâché. Parce que Moïse est peut-être un candidat valable. C'est lui que les disciples ont vu avec Jésus, ainsi Moïse et Élie, sur la montagne de la Transfiguration, n'est-ce pas? Ce n'était pas Enoch. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Si vous demandez à un juif, il s'agit ici d'un texte du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament, mais si vous demandez à un juif, il va vous dire, il est certain qu'avant la venue du Messie, Élie va revenir. Et il se base pour ça, le juif, sur une prophétie de Malachie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Quand Jean-Baptiste a exercé son ministère, les gens lui demandaient, « Es-tu Élie ?» Parce qu'il dit, vous vous rappelez, il prêchait, « Je prépare le chemin du Messie. » Alors, « Es-tu Élie ?» Se basant sur Malachie. Et Jean-Baptiste dit, « Non, non, je ne le suis point. » Alors les disciples firent cette question à Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Dans un sens spirituel, Jean-Baptiste était Élie, n'est-ce pas? Si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mais il n'était pas littéralement Élie, il était Jean-Baptiste. L'ange qui annonce la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie lui dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ne dit pas « il était Élie ». On aurait eu un problème si Jean-Baptiste était vraiment Élie. Pourquoi est-ce qu'on aurait eu un problème? Parce qu'alors on serait obligé de croire à la réincarnation, n'est-ce pas? Il est dit qu'un homme ne meurt qu'une fois, mais il n'est né qu'une fois aussi, n'est-ce pas? Nous n'allons pas naître une deuxième fois, à moins qu'on soit hindou. Eux, ils croient à la réincarnation. J'ai parlé avec un hindou, il a dit, vous savez, le privilège le plus grand pour un hindou, c'est de revenir dans une prochaine vie dans la forme d'une vache. Je me demande pourquoi je ne suis pas attiré à l'hindouisme. Vous imaginez, nous ne croyons pas à la réincarnation, j'espère. N'est-ce pas? Nous ne sommes nés qu'une fois. Votre maman est contente que je dis ça. N'est-ce pas? Alors, si Jean-Baptiste était littéralement Élie, on aurait ce problème. Il n'est pas dit que les deux témoins sont nés. Il est dit que Dieu les a envoyés. Comme Élie est monté au ciel, Dieu peut aussi facilement le faire descendre du ciel. Il ne doit pas nécessairement naître comme un bébé et grandir. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, je voudrais vous citer quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Comme vous le savez probablement, il y avait, et il y a encore, des autres livres qui ont l'air d'être un peu bibliques, mais qui ne sont pas considérés comme la parole de Dieu. Des livres qu'on appelle les apocryphes. Dans certaines Bibles catholiques, on reprend parfois quelques de ces livres. Est-ce qu'un chrétien a intérêt à les lire? Certains, pas tellement. Il y a des livres de poésie qui est très joli. Il y a des livres d'histoire, les deux livres des Maccabées, par exemple. Très intéressant du point de vue historique, pas spirituel, mais du point de vue historique. Et il y a un livre qui date du temps du Nouveau Testament, un livre apocryphe qui s'appelle le livre de Nicodème. Certains pensent que c'est écrit par ce Nicodème qui est venu trouver Jésus la nuit, Jean chapitre 3, mais il y avait des autres Nicodèmes à l'époque. Ça n'a pas d'importance, mais dans ce livre, ce Nicodème décrit le monde des ténèbres. Et il y a une phrase là-dedans que je trouve quand même intéressante à vous lire. Attention, je ne lis pas la parole de Dieu. Donc, ce que je vais vous lire, je ne dis pas que c'est inspiré par Dieu, c'est quelque chose qu'un juif de l'époque a écrit, se basant sur les croyances et les traditions de l'époque. Et quand je lis ce verset, vous allez voir pourquoi. Pensez, les juifs, pas tous, mais ils avaient cette croyance, ils avaient cette tradition. Jean, sans doute, est au courant. Voici la phrase du livre de Nicodème. Deux vieillards furent questionnés par les saints. Deux vieillards. Qui sont-vous qui ne sont toujours pas avec nous en avéante? Ça, c'est le mot grec pour Sheol. Alors que vos corps n'ont toujours pas été transportés au paradis. L'un d'eux répondait en disant, je suis Enoch, qui fut enlevé au ciel selon la parole de Dieu, et cet homme qui est avec moi est Élie le Tishbite, qui fut enlevé dans un char de feu. Nous devons rester ici, et nous n'avons pas goûté la mort, mais nous nous tenons prêts à retourner dès l'apparence de l'Antéchrist, armés de signes et de prodiges divins pour le combattre. Et à être tué à Jérusalem, et à être ressuscité 3 jours et demi plus tard, et à être enlevé dans les nuées. C'est quand même frappant, n'est-ce pas, la similarité de ces phrases du livre de Nicodème, probablement écrit avant l'Apocalypse, mais ça n'est pas certain. Mais il y a quand même une similarité. Et si je le lis, je le répète, c'est pas parce que c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas essayer de construire une doctrine là-dessus, mais c'est pour donner l'arrière-plan. Les Juifs croyaient ça. Donc, pas Moïse qui allait revenir, mais Enoch et Élie. Et qu'il reviendrait quand l'Antichrist se manifesterait. Et qu'il prophétiserait à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Et qu'il serait tué. Et il resterait, le cadavre resterait pendant 3 jours et demi, et puis que Dieu leur ferait monter au ciel. C'est frappant. Certains pensent, alors que Jean, il a lu le livre de Nicodème, et il l'a inclus dans l'Apocalypse, et c'est pas du tout le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Ça n'est pas vrai. Si c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est que ça vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais il est vrai que, ce témoignage pour nous est très frappant. Pour un juif qui entendait ça, il dit, ah oui, mais ça, on savait déjà. Ça, on en parlait déjà. On a déjà entendu ça. Les vêtements des témoins témoignent de la sévérité de leur message de jugement. Ils sont revêtus de sacs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, les gens du Nouveau Testament, ils n'avaient pas des vêtements comme nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on portait du temps du Nouveau Testament? À moins qu'on soit très riche, et la plupart étaient très pauvres. En somme, ils n'avaient que 2 vêtements. Ils n'avaient pas de sous-vêtements. Ils avaient une tunique. Pour les hommes, ça venait à peu près jusqu'aux genoux. Pour les femmes, c'était plus long. Mais c'était sinon plus ou moins identique. N'est-ce pas? Et d'habitude, on avait une ceinture au milieu, en cuir, et sur cette ceinture, on portait un espèce de petit sac, une bourse si vous voulez, vos pièces d'argent, votre carte d'identité, votre carte Visa, etc., vous le mettiez là-dedans. Et puis, on avait ce qu'on appelait un manteau. Mais ce n'était pas un manteau avec des manches et un collier comme nous. Le manteau, c'était un drap de à peu près 3 mètres de long, 1 mètre et demi, 2 mètres de large. Et c'était tissé de cheveux noirs de chèvre. Et le tissu de chèvre est intéressant. Ce n'est pas joli, ce n'est pas beau, ce n'est pas doux, mais c'est très intéressant. Le tissu de chèvre a... comment est-ce que je peux l'expliquer? On s'en servait pour faire un manteau, mais on se servait aussi pour faire des tentes. Par exemple, Abraham, dans le désert, sa tente était faite de tissu noir de chèvre. Et si vous allez dans le désert en Israël aujourd'hui et vous voyez les nomades des Bédouins, ils font toujours leur tente de tissu de chèvre. Pourquoi? Parce que les cheveux de chèvre, quand il fait chaud et humide, ça s'ouvre. Alors, dans le désert, quand il fait chaud, ça veut dire que vous pouvez profiter au maximum de chaque petite brise. Mais quand il fait froid et humide, le tissu de cheveux de chèvre ferme, devient tout à fait étanche, chaud, et vous êtes au sec. Et ça se fait naturellement, automatiquement. Alors, le manteau, quand nous lisons dans la Bible qu'ils avaient un manteau, c'est ce drap de tissu, et dans la journée, quand il fait froid ou quand il pleut, on s'enveloppe dedans. La nuit, c'est votre sac à couchage. Vous vous rappelez l'histoire comment il s'appelle, l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas, Jéricho? Et Jésus l'appelle. Et la Bible dit, il fait un saut et il laisse tomber son manteau. Parce que ce drap est très lourd. Il veut courir vers Jésus, il laisse tomber le manteau. Le manteau est donc fait de tissu de chèvre. La tunique, c'est du lin. Sauf si vous êtes très riche, ça pourrait être de la soie, mais c'est du lin. Mais ici, ils sont vêtus de sac. Le tissu de sac, vous savez ce que c'est, hein? On fait ça aujourd'hui. Vous n'aimeriez pas porter ça contre votre peau, n'est-ce pas? Ça irrite terrible, vous allez vous gratter tout le temps. Et quand est-ce qu'on portait le sac? Ça signifiait quelque chose. Si vous voyez quelqu'un, au lieu d'avoir sa tunique en lin, il porte du sac, ça veut dire une de quelque chose. Par exemple, il est en deuil. On portait le sac quand on était en deuil. Jacob, quand il pleure son fils Joseph, qu'il présume avoir été dévoré par des bêtes sauvages, il déchire à ses vêtements, il met un sac sur ses reins, et il porte à longtemps le deuil de son fils. Ça pourrait aussi être un signe de repentance. Le roi Achab, après avoir entendu les paroles d'Élie, c'était des paroles de jugement sévère, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur le corps, il jeûna, il couchait avec ce sac. On portait aussi le sac quand on était profondément triste. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu les menaces des Syriens, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, c'est l'histoire d'Esther, hein, que les Juifs allaient être tués, il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Job dit, « J'ai cousu un sac sur ma peau. » Par contre, David chante, « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Donc, si ces deux témoins sont vêtus de sac, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont un message qui est très sévère. Ils ont un avertissement, un jugement annoncé qui est très triste. Ça parle de la mort. Pendant leur ministère, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est fort ça, hein? C'est fort ça. Vous voulez me faire du mal? De ma bouche va sortir du feu pour vous tuer. Pas très chrétien, ça. Mais nous ne sommes pas dans l'ère de la grâce, nous sommes dans la grande tribulation. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc à la moitié de la grande tribulation, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Je parlerai des bêtes dans la prochaine étude, ou tout à l'heure peut-être. Oui. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est quelle ville alors? C'est de nouveau pas Boîte-Villers, hein? C'est Jérusalem, là où leur Seigneur a été crucifié. Appeler Jérusalem Sodome et Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, nous sommes dans la grande tribulation. Nous sommes sous le règne de l'Antichrist, où le péché et l'idolâtrie et toutes les abominations règnent. Et Jérusalem, au lieu d'être la ville de Dieu, devient la ville du diable. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'en verront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, ils vont être tués et on va laisser leurs cadavres là à Jérusalem, dans la rue. Si je vous dis que pour un juif, enterrer un mort, il faut le faire vite. Aujourd'hui, dans le temps de la Bible aussi, on enterre un mort, si possible, en dehors les 8 heures. Chez nous, ça peut durer 1 semaine, 10 jours même. Il y a des pays, mon jeune, plus jeune fils habite en Suède, ça, c'est très régulier quand l'enterrement n'a lieu qu'à 4 à 6 semaines après la mort. Ça, je trouve fort, mais c'est leur habitude là. Mais chez les Juifs, certainement en dehors les 24 heures, et si possible, en dehors les 8 heures. J'ai une connaissance à Jérusalem, un professeur d'université, et il est juif, mais d'origine américaine. Donc ses parents, la plupart de sa famille, habitent à New York. Sa maman est décédée, et lui, comme il est le fils aîné, il voulait absolument être là pour l'enterrement. Il a tout de suite pris l'avion. Mais entre l'Israël et New York, il y a 8-9 heures de vol. Quand il est arrivé, sa maman était déjà enterrée. On n'a pas attendu même l'arrivée de son fils aîné. Tellement que pour un juif, il est honteux de ne pas enterrer un mort. Mais ces deux prophètes, ces deux témoins, on ne va pas les enterrer. J'espère que vous me suivez. C'est une insulte terrible. Ce n'est pas un manquement, c'est une insulte. Les corps des deux témoins vont rester pendant 3 jours et demi sur la rue de la ville, qui était connue comme la ville sainte, mais qui est maintenant devenue comme Sodome et Égypte. Il est évident que l'homme devient de plus en plus perverti, n'est-ce pas? Les peuples du monde sont si heureux d'être quittes de ces témoins qui célèbrent leur mort comme si c'était à Noël. On s'envoie des présents. On ne les enterre pas. Une humiliation ultime. Mais comme toujours, c'est Dieu qui a le dernier mot. Après les 3 jours et demi, Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ça doit faire une impression, non? On ne les a pas enterrés, mais ils ressuscitent de la mort. Jésus, on l'a enterré, il est ressuscité, mais tout le monde ne l'a pas vu. Mais ces deux témoins vont voir, ils vont être témoins que la puissance de Dieu dépasse celle des hommes. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Tiens, toutes les autres catastrophes qui sont survenues sur la terre dans le livre de l'Apocalypse jusqu'à présent, les hommes n'ont jamais donné gloire à Dieu. Ils ont demandé aux montagnes de tomber sur eux, etc. Mais ici, maintenant, ils se rendent compte. Si ces deux témoins qu'on a refusé d'enterrer ressuscitent, reviennent à la vie et montent au ciel, ça, c'est Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient maintenant. Et le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Remis. Le diable n'en l'a donc plus en main. Et il régnera au siècle des siècles. Ça veut dire à jamais. Les 80 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu. Je ne vais pas vous expliquer, on a déjà vu ces 80 vieillards, ces 24 vieillards. Mais j'aime bien leur chant ou leur adoration, les paroles. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne, les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et maintenant nous lisons ceci. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Il n'y en a pas sur la terre, mais au ciel, le temple de Dieu. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Toutes ces signes-là, éclairs, voix, tonnerres, tremblement de terre, grêle, ce sont des signes de colère et du jugement de Dieu. Et cette septième trompette annonce que le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous entrons dans la fin des temps de la fin, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'à la moitié du livre l'Apocalypse, mais voilà déjà que nous entamons la conclusion. Mon fils qui est en Suède, quand il était adolescent, il a passé une période où il avait beaucoup de critiques sur l'Église et sur mon ministère. Et chaque dimanche, après le culte, au repas, il sortait ses critiques. Et je me rappelle un dimanche, on mangeait, il dit, tu l'as fait de nouveau à papa? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Eh bien, il dit, j'ai déjà compris que quand tu prêches et tu dis en conclusion, ça veut dire que tu es à peu près à la moitié de son sermon. C'est comme si Jean suit mon exemple. Il est à la moitié de son livre, mais déjà il entame la conclusion. Et il va expliquer cette conclusion en beaucoup de détails. Il dit, le moment est arrivé pour le jugement. Le moment ne sera que d'ici 1003 ans et demi, le dernier jugement. Mais on est déjà, comment dirais-je, on est déjà dans les préparatifs, n'est-ce pas? C'est déjà entamé. Ma femme disait parfois, vous venez à table quand tout est déjà prêt. Et il ne me faut aucune minute pour mettre le manger sur la table. Mais ça ne veut pas dire que le repas n'a commencé qu'une minute. Moi, j'ai été déjà longtemps avant à la cuisine. Et quand on arrive au dernier jugement, avant cela, Dieu a été longtemps à la cuisine, n'est-ce pas, pour tout préparer. Revenons à ce temple au ciel. Pendant l'adoration des êtres célestes, donc des 24 vieillards, le temple de Dieu au ciel et l'arche de son alliance deviennent visibles. Comme nous l'avons déjà vu, il y a un temple au ciel. Il y a toujours eu un temple au ciel. Et c'est ce temple au ciel, d'ailleurs, qui a servi de modèle pour le tabernacle de Moïse et pour les temples qui ont suivi. L'Épître aux Hébreux dit ceci. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est comme s'il veut dire le véritable sanctuaire et tabernacle, c'est au ciel. Ce que vous avez sur la terre n'a jamais été qu'une copie. Et c'est vrai. Dieu a dit à Moïse, fais très attention que tu fais tout selon le modèle qui t'a été montré. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, et pas par Moïse, pas par un homme, pas par Esdras, pas par Hérode, mais par Dieu lui-même. Et puis Jean dit ceci, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Dans les temples et le tabernacle sur la terre, vous et moi, on n'a jamais vu l'arche de l'alliance. Il n'était pas permis. Même les prêtres ne pouvaient pas voir l'arche de l'alliance. Seulement le souverain sacrificateur, et lui seulement pendant quelques minutes, une fois par an. On n'avait jamais vu. Mais à la moitié de la grande tribulation, le temple de Dieu au ciel devient visible, ainsi que l'arche de l'Alliance. Je voudrais vous dire deux choses sur cette arche de l'Alliance. D'abord, à ceux qui ont vu le film de Indiana Jones, oui, inutile d'aller chercher l'arche de l'Alliance en Éthiopie. Ce qu'il est au ciel. Et toutes ces histoires des Juifs qui l'ont enterré sous le temple, quelque part dans un de ces tunnels, n'allez pas le chercher. Le vrai est au ciel. Je pense qu'il était la volonté de Dieu que l'on voie l'arche quand il était encore dans le temple à Jérusalem. Parce que quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, Le voile s'est déchiré. Et qu'est-ce que c'est ce voile? Eh bien, c'était un triple rideau, très épais, qui était pendu dans l'ouverture entre le lieu saint et le lieu très saint. C'était tellement épais qu'aucune lumière ne pénétrait. Et ça empêchait même les prêtres de voir l'Arche de l'Alliance. Mais quand Jésus est mort, toute barrière entre l'homme et Dieu est enlevée. Voile a été déchiré. L'évangéliste décrit en détail d'en haut jusqu'en bas. Il était presque 10 mètres de hauteur. Si vous allez déchirer un rideau, à moins que vous apportez d'abord une très grande échelle, vous allez le déchirer d'en dessous, n'est-ce pas? Vous allez commencer par en dessous, pas par au-dessus. Mais la main de Dieu, c'est Dieu qui le déchire, il commence d'en haut, vers le bas. Et pendant un temps, on peut voir l'Arche de l'Alliance. Pas beaucoup de gens l'ont vu, parce que les prêtres ont très vite recousu le voile. Ils ne voulaient pas que l'homme sache que Dieu ait enlevé toute barrière entre lui et l'homme. Mais maintenant, nous savons où est cette Arche de l'Alliance. Quand est la dernière fois que l'homme l'a vue? Eh bien, il a été enlevé du temple, le vrai, en 586 avant Jésus-Christ, par Nebuchadnezzar, le Babylonien. Et ça n'a jamais été remis. Alors, qu'est-ce qui était dans le lieu très saint, dans le temple d'Esdras et dans le temple d'Hérode? Quand le souverain sacrificateur, une fois par an, disparaissait derrière le voile pour asperger le sang du pardon, il le jetait sur quoi? Mystère. Certains disent que la pièce était tout à fait vide et qu'il y avait seulement une plaque par terre qui indiquait où l'Alliance se trouverait s'il l'avait encore. D'autres pensent qu'ils ont fait une copie de l'Arche de l'Alliance. Je ne le sais pas. En tout cas, le vrai, il est dans le temple au ciel. L'apôtre Jean l'a vu. Et Dieu voulant, un jour, nous le verrons aussi. Je suis à la fin du chapitre 11. Je ne sais pas si on veut peut-être, ce serait peut-être mieux d'arrêter là. Non? Oui, je pense, hein. Parce que sinon, on va faire quelques versets et puis on va devoir peut-être répéter beaucoup la fois prochaine pour se rappeler. Je sais que c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais ça fait rien. On n'a pas chanté avant, hein. Donc, on a eu la même longueur d'étude. Merci beaucoup de votre attention. Et que Dieu vous bénisse et Dieu voulant à la prochaine fois. Amen.